Matthieu 13, 1 à 23. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison où il se trouvait et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla si nombreuse qu'il dut monter dans un bateau. Il s'y assit. La foule se tenait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Il leur dit : Un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux, et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement, parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent, et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains, enfin, tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler ?» Il leur répondit « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. » Car à celui qui a, on donnera encore, jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voici pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler. C'est que, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux, de peur qu'ils voient de leurs yeux et qu'ils entendent de leurs oreilles, de peur qu'ils comprennent, qu'ils reviennent à moi et que je les guérisse. Vous, au contraire, vous êtes heureux. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Vraiment, je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Puis, il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Quand surviennent des difficultés, ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors, il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100. Chez un autre, 60. Chez un autre, 30.
Je vous invite à prier. Notre bon Père Céleste, nous demandons ton aide maintenant pour pouvoir être à ton écoute, à l'écoute de cette parole. Pour que nos oreilles soient ouvertes pour entendre précisément et comprendre ce que tu veux nous dire par ce texte. Au nom de Jésus. Amen. Alors, s'il y en a parmi vous à qui il arrive d'apporter des messages bibliques, il y en a sans doute quelques-uns, il y a peut-être même des formations du GBU pour ça, je suis sûr. À l'époque, il y avait les week-ends Andrew Page, je ne sais pas si ça existe encore, sans doute pas, mais... Si donc ça vous arrive d'apporter peut-être une prédication ou en tout cas un exposé biblique, vous vous reconnaîtrez peut-être dans cette situation. Vous avez travaillé des heures à essayer de bien cerner le sens du texte en appliquant bien sûr la méthode OIA pratiquée par Jésus et les apôtres déjà. Vous avez le sentiment d'avoir bien ficelé votre message. Ça va au cœur du texte, ça va toucher les gens si Dieu le veut bien. Et puis, au fil de votre message, à un moment donné, vous utilisez comme Julien tout à l'heure, une petite image, une illustration. Alors par exemple, je pense à l'illustration du GPS que j'ai dû utiliser 3 ou 4 fois en 10 ans. Et là, à la fin du message, on vient vous dire « Ah, oh, j'ai bien aimé le coup du GPS. » Ah, le coup du GPS, tu peux pas savoir comment ça m'a touché. Et vous dites « c'est ça que tu as retenu, c'est ça que tu as retenu du message. » Alors, on le dit pas, mais c'est ce qu'on pense parfois. Alors je pourrais parler du rôle légitime des illustrations dans un message, mais c'est pas le lieu ni le cadre pour ça. Par contre, j'évoque ce point parce qu'en lisant les paraboles de Jésus, on peut se demander finalement si c'est un peu ça que fait Jésus. Il donne des illustrations qui peut-être sont mémorables, qui sont percutantes, mais finalement, à quoi ça sert? Quel est leur sens? Pourquoi Jésus emploie-t-il ce registre imagé? Et est-ce qu'il n'y a pas le risque finalement que ça vienne distraire de peut-être de choses plus importantes qu'il aurait à nous dire? Ne serait-il pas plus naturel, enfin, qu'il parle plus directement? Et la question se pose dans le texte que Marie a lu. Au verset 10, alors il n'y a peut-être pas de tonalité critique dans la question, on ne sait pas trop, mais les disciples de Jésus demandent au Seigneur, verset 10, « Pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler ?» Et la clé va être de comprendre ce que Jésus lui-même dit à ce propos. Mais d'emblée, je voudrais vous suggérer une hypothèse, ou peut-être plutôt une synthèse, sur le rôle des paraboles. Il me semble qu'elles sont un moyen que Jésus emploie pour révéler progressivement qui il est, ce qu'il est venu faire parmi les hommes, et quels sont les projets de Dieu pour le monde. Donc un moyen que Jésus emploie pour révéler qui il est, ce qu'il est venu faire parmi les hommes, et quels sont les projets de Dieu pour le monde. Et j'ai bien dit un moyen de se révéler progressivement. Parce que dans les évangiles, et en particulier dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, on voit que Jésus se révèle peu à peu. À la fois par la parole et le geste, il se dévoile peu à peu. Et les disciples comprennent plus ou moins peu à peu. Et avec une pédagogie saisissante, Jésus va progressivement donc aider les disciples à comprendre qui il est vraiment et quelle est sa mission. Et pour ce qui est des paraboles, il me semble qu'elles invitent leurs auditeurs à l'époque, en premier lieu, et puis aujourd'hui les lecteurs, par la grâce de Dieu on a accès à tout moment à ces paraboles sous forme écrite, eh bien elles nous invitent à entrer dans la pensée de Jésus. Entrer dans la pensée de Jésus, à découvrir ce qu'il a à nous dire sur Dieu, sur le monde et sur les hommes. Or si Jésus est bien celui que Matthieu, au début de son évangile, nous a présenté comme le Fils de Dieu, Dieu avec nous, eh bien nous avons tout intérêt à écouter, à prêter attention à ce que nous disent ces paraboles. À entrer dans sa pensée. Parce que entrer dans la pensée de Jésus, si Jésus est bien Fils de Dieu, Dieu avec nous, entrer dans la pensée de Jésus, c'est entrer dans la pensée de Dieu. C'est entrer dans l'absolument vrai. C'est entrer dans ce que nous avons besoin de savoir par-dessus tout. Et la parabole du semeur, qui ouvre ce chapitre 13, joue un rôle particulier en ce sens. Par cette parabole, on va voir que Jésus nous dit en quelque sorte « On y va ? On y va ? Vous êtes prêts à entendre ce que je vais vous dire sur le royaume de Dieu ? Vous êtes prêts à entendre, comprendre et changer de vie en fonction de ce que je vais vous révéler ?» On va regarder ça de plus près. On va relever 3 exhortations. Entrez dans l'histoire d'abord, ouvrez vos cœurs ensuite et laissez-vous changer. Donc on va commencer par entrer dans l'histoire. Quand j'étais tout petit, on m'a raconté une histoire justement qui m'est restée. Alors en fait, j'y réfléchissais, je ne sais pas si ça vient d'un livre, un petit livre pour enfants, ou si c'est mon père qui l'avait inventé, parce que ça lui arrivait d'inventer des histoires. Mais en tout cas, c'était l'histoire d'un groupe d'enfants qui rentrait dans la télé et qui, de spectateur, il rentrait dans le dessin animé, quoi, il devenait acteur de l'histoire. C'est sans doute mon père qui l'avait inventé. Bien, je pense qu'on va voir que Jésus, dans ses paraboles, nous invite à entrer dans l'histoire qu'il raconte. À la fois l'histoire, avec un petit H, l'histoire qu'il est en train de raconter, l'histoire du semeur et de la terre, mais aussi l'histoire avec un grand H. Et on va voir ce qui nous permet de dire cela. Alors d'abord, quelques éléments de contexte. On est en Galilée, c'est au nord de l'Israël actuel. On est vers le début du ministère de Jésus. Et Jésus s'adresse à des foules grandissantes. Et régulièrement, il va avoir recours à ce type de discours, la parabole, une histoire en images. Une parabole, c'est une anecdote, une histoire. Alors parfois, elles sont extrêmement courtes, parfois elles sont plus longues et développées. Mais Jésus va fréquemment utiliser ce type de registre. Matthieu a choisi de regrouper dans un chapitre de son évangile plusieurs de ses paraboles, celles qui sont en rapport direct avec le royaume de Dieu. Alors, sans doute que, comme c'était sur le même thème, Jésus les a racontées plus ou moins dans la foulée, mais on peut penser qu'il les a racontées à différents moments de son ministère. D'ailleurs, dans les évangiles de Marc et de Luc, on les retrouve un peu plus dispersés dans l'évangile. Mais donc, Jésus s'adresse à des foules, et parfois il s'adresse dans un cadre plus restreint à ses disciples. Et c'est un peu un va-et-vient qu'on voit dans ce chapitre 13. Parfois, Jésus parle devant tout le monde à une grande foule, et parfois, il va parler en privé à ses disciples. Mais ce chapitre 13, il n'intervient pas dans l'évangile de Matthieu comme un cheveu sur la soupe, on s'en doute bien, et il est intéressant de voir ce qui se passe dans les chapitres qui précèdent. Au cours des chapitres 11 et 12 en particulier, on voit que de plus en plus de gens accourent pour écouter Jésus, pour le voir accomplir des miracles et des guérisons, mais dans le même temps, il y a de plus en plus d'opposition contre lui. Donc d'un côté, il y a de plus en plus de gens qui veulent l'écouter, l'entendre, qui sont là, et en même temps, il y a de plus en plus d'opposition. L'élite religieuse de son temps le rejette de plus en plus ouvertement et songe déjà à le faire supprimer. Ça nous a été dit explicitement. D'autres parmi ses auditeurs le mettent à l'épreuve, lui demandent un miracle. Et même quelqu'un comme Jean-Baptiste se demande, dans un moment peut-être où il est un peu déstabilisé, il se demande si Jésus est vraiment le Messie que lui-même Jean-Baptiste a annoncé. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a une popularité croissante, mais derrière cela il y a des doutes, des questionnements, parce que Jésus n'est pas le Messie auquel on s'attendait. Il y a des questionnements, et même l'opposition, et l'opposition de plus en plus hostile de certains adversaires. Et en réponse à cette opposition, Jésus va avoir des paroles très dures parfois. Il va évoquer le jugement des gens de sa génération, le risque de s'endurcir au point d'aller tout droit vers la condamnation de Dieu. Mais en disant ça, il ne faudrait pas oublier que dans le même temps, Jésus a adressé aux foules un appel large et généreux, qui nous est rapporté au chapitre 11. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Et donc, et ça, on voit que ça s'adresse à tous ceux qui veulent bien venir à Jésus. Donc, il y a une invitation large, mais il y a aussi la mise en garde d'un enjeu par rapport à un enjeu essentiel. Le message que Jésus apporte, c'est pas une option, c'est pas un plus, mais c'est un message essentiel de vérité que chacun doit saisir. Et face à cette invitation adressée par Jésus, on voit que les réactions sont diverses. Les gens dans la foule réagissent de manière très différente, très diverse. Et au moment où Jésus raconte cette première parabole, celle du semeur, eh bien, il a en face de lui une foule nombreuse, aux attentes et aux attitudes diverses. Il y en a qui sont déjà ses disciples. On voit bien dans le texte, il y a ses disciples qui sont là. D'autres qui trouvent son enseignement intéressant, mais qui ne savent pas trop encore comment il se positionne. Peut-être le cas de certains parmi nous ce matin. D'autres sont surtout là pour les guérisons. Ils ont envie de voir des guérisons. Donc ils sont venus voir Jésus. Et puis d'autres aussi, on a plusieurs indices de ça, enfin c'est même dit parfois explicitement, d'autres sont là carrément pour recueillir des éléments à charge contre Jésus, pour pouvoir ensuite le dénoncer. Donc il y a de tout dans cette foule. Et on va voir combien ce contexte est pertinent pour comprendre le sens même de la parabole du semeur. Alors quel est ce sens justement ? Il est assez simple, en fait. C'est pas une histoire particulièrement compliquée que Jésus raconte ici. On a un semeur qui jette de la semence, donc du grain. Alors, dans plusieurs situations, ça prend pas parce que la terre n'est pas bonne. Elle n'est pas adaptée à permettre que la semence germe et pousse. Et donc, la semence ne s'enracine pas et ne porte pas de fruits. Dans la dernière situation décrite, par contre, la terre est bonne, elle est adaptée, et la semence grandit et donne une plante qui, à son tour, porte du fruit. Donc l'image est relativement simple, et on note que avant même de donner un peu plus loin l'interprétation de la parabole à ses disciples, Jésus va déjà inviter les foules à l'écouter et à le comprendre. Verset 9, celui qui a des oreilles, qu'il entende. Celui qui a des oreilles, a priori tout le monde est concerné, et tout le monde ce matin, certainement aussi. Alors, ce serait fausse route que de faire poser à cette parabole des questions qu'elle ne pose pas. Et ça, d'un point de vue général sur les paraboles, du genre, pourquoi est-ce que le semeur sème au bord du chemin alors qu'il voit bien qu'il y a des ronces ? Jésus ne raconte pas cette parabole pour donner une leçon d'agriculture ou pour qu'on en décortique les moindres détails, mais pour qu'on comprenne l'essentiel. Alors, quel est cet essentiel, justement ? Ça serait peut-être intéressant pour ça de voir ce que Jésus lui-même en dit, l'interprétation qu'il fait de la parabole, versets 18 à 23. Première chose frappante, Jésus ne précise pas qui est le semeur. C'est intéressant, il interprète la parabole pour les disciples, mais voilà, le semeur, il l'identifie pas. Alors, ses auditeurs les plus avisés étaient sans doute conscients qu'à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, Dieu est présenté comme un semeur. Jérémie chapitre 31, Osée chapitre 2 par exemple. Et dans la parabole de la mauvaise herbe ou de l'ivraie qui vient après, là Jésus va affirmer que le semeur c'est le Fils de l'homme, verset 37, c'est-à-dire lui-même. Mais alors qu'il raconte cette parabole, Jésus ne précise pas les choses. Et c'est intéressant, je trouve. Est-ce que c'est lié au mystère de son identité que Jésus justement va progressivement révéler à ses disciples, mais qu'il ne souhaite pas encore dire de façon très directe, parce qu'il maîtrise le temps et il maîtrise la manière de se révéler. C'est possible. En tout cas, l'identité du semeur donc n'est pas précisée. Par contre, celle de la semence l'est clairement. C'est le message qui concerne le royaume. Littéralement, la parole du royaume, verset 19. Or, qui est-ce qui proclame la parole du royaume depuis le début de son ministère? Qui est-ce qui s'apprête à expliquer en parabole ce qu'est le royaume de Dieu est semblable à, etc., et bien c'est évidemment Jésus lui-même. Et donc on peut déduire sans difficulté que Jésus est le semeur. Et ça nous conduit à faire un constat assez frappant. Alors mes paroissiens ont déjà entendu ça, hein, mais il aura sa piqûre de rappel. Celle d'un effet de miroir dans ce texte. Pour prendre le terme littéraire, d'une mise en abîme. Alors même l'illustration, ils l'ont déjà entendu, mais quand il y a une illustration qui marche, autant la recycler. Alors, imaginons que je raconte à mes filles une histoire pour s'endormir, et que l'histoire que je leur raconte, c'est celle d'un père qui raconte une histoire à ses filles pour s'endormir. C'est une mise en abîme, il y a un effet de miroir entre la situation vécue et le récit qu'on est en train de raconter. Pour les littéraires parmi vous, je suis sûr qu'il y a certains littéraires, on a un bel exemple dans la littérature, il y en a plusieurs, hein, mais par exemple, Les faux monnayeurs d'André Gide, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, eh bien, ça nous parle de quelqu'un qui écrit un livre qui s'appelle Les faux monnayeurs. Et donc, et il y a beaucoup de va-et-vient dans ce livre entre la réalité, entre le personnage principal, l'auteur, etc. Mais on retrouve ça, en fait, dans la parabole du semeur. Il y a un effet de miroir entre l'histoire que raconte Jésus, le semeur qui sème la semence, et ce que Jésus est en train de faire en racontant cette parabole, il sème la parole. Cette parabole et les autres qui vont suivre. Donc Jésus sème la parole en racontant, en parlant du semeur qui sème la semence. Il y a vraiment un miroir entre le récit qu'il raconte et ce qu'il est en train de faire. Et on comprend d'autant mieux cet effet de miroir quand on considère que Jésus fait face à une foule dont beaucoup n'écoutent pas vraiment le sens de la parabole et ne comprennent pas. Oui, peut-être qu'ils attendent le miracle. Tandis que quelques-uns, les disciples ou ceux qui vont le devenir, ils veulent comprendre ce que Jésus veut dire et ils veulent comprendre en quoi ça les implique. Donc Jésus fait face dans son auditoire à de la bonne terre et à de la mauvaise terre. Il y a ceux qui rejettent Jésus d'emblée ou qui comprennent rien à ce qu'il raconte, soit parce qu'ils trouvent ça trop simple, soit parce qu'ils trouvent ça trop compliqué. Ceux qui ne sont même pas prêts à envisager que ces paroles soient justes ou vraies, même pas prêts à envisager ça, comme les graines tombées au bord du chemin, verset 4, verset 19. Ça prend même pas un instant. Il y a ceux qui, avec un certain enthousiasme, ont commencé à le suivre, mais dès que les difficultés commencent, ils vont déchanter. Et ça, on voit ça à plusieurs reprises dans les évangiles. On voit ça par exemple dans l'évangile de Jean, où quand ça devient difficile, que Jésus est rejeté par de plus en plus de gens, que son discours est dur à entendre, bah les masques tombent et beaucoup de prétendus disciples s'en vont. Comme la semence tombée sur le sol rocailleux. Verset 5, verset 20. Il y a ceux qui sont prêts à écouter dans un premier temps, mais qui laissent ce qu'ils ont entendu entrer par une oreille et sortir par l'autre. Généralement parce qu'ils se laissent distraire par les soucis ou les attraits du monde. Comme la semence tombée parmi les ronces. Verset 6, verset 22. Et puis il y a ceux qui entendent, qui écoutent et qui comprennent. Alors ils comprennent pas forcément tout du premier coup, mais ils ont compris qu'ils doivent écouter déjà. Et qu'ils doivent changer en fonction de ce que Jésus leur dit. Comme la bonne terre qui porte du fruit. Verset 8, verset 23. Et donc la parabole du semeur est en quelque sorte une parabole opérante. Elle agit au moment même où elle est racontée. Et la manière dont l'auditoire réagit à cette parabole va déterminer, dans un sens, la réaction à tout ce que Jésus va dire par la suite. Si on n'est pas prêt à écouter la parabole qui nous dit qu'il faut écouter Jésus, si on n'est même pas prêt à écouter la parabole qui nous dit qu'il faut écouter, on risque pas d'écouter la suite. Et c'est sans doute pour ça que dans la version que Marc raconte de cette même parabole, Jésus dit aux disciples « Vous n'avez pas compris cette parabole, mais alors comment comprendrez-vous toutes les autres ?» Marc 4, 13. Et même au-delà des paraboles, si les disciples sont prêts à écouter les paraboles de Jésus, à les prendre au sérieux, à discerner en elles la parole du royaume de Dieu, eh bien on peut penser qu'ils vont être prêts à écouter cette parole du royaume jusqu'au bout, y compris quand elle va leur présenter un Messie crucifié et ressuscité pour eux. Autrement dit, l'écoute authentique de Jésus écoutera jusqu'au bout, ira jusqu'au bout. Donc la parabole du semeur, c'est en quelque sorte un premier test. Sommes-nous prêts à entrer dans l'histoire et à être cette bonne terre qui reçoit la parole de Jésus? Et ça nous conduit au deuxième point qui est vraiment dans la foulée, dans le même ordre d'idées, ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. On a tous vu ces scènes de films ou de séries américains où quelqu'un doit désamorcer une bombe. Via les instructions d'un spécialiste qui est au téléphone. Ça doit être dans 30 films, vous avez cette scène. Et là, il y a toujours un petit fil rouge et vert. Toujours rouge et vert, hein, c'est marrant. Et on connaît cette scène. Hein, la tension est à son comble, la sueur sur le front. Et il y a ce petit fil rouge et ce petit fil vert. Il y a des petits ciseaux. Et puis, si on se trompe, eh ben, on sera plus là pour le déplorer. Et là, alors qu'il reste une seconde au compteur, tout s'arrête. Ah! Et comme dirait James Bond, on mourra un autre jour. Et dans une telle situation, aussi improbable soit-elle, la concentration est totale. Et l'attention qu'on accorde aux informations données au téléphone est absolue. C'est pas le moment de penser à sa liste de courses. On est entièrement focalisé sur ce qui se passe. Et sur ce qu'on entend, sur les instructions qu'on entend. Donc c'est un exemple de concentration maximum. Si un jour nous entendions du ciel la voix de Dieu, je pense que après être tombé face contre terre, nous lui accorderions la même attention totale. C'est pas une voix qui peut juste se fondre dans le décor. On entend un tel, ça, on entend ça. Ah oui, il y a Dieu aussi. C'est pas possible. Ça ne peut pas se mêler au brouhaha quotidien. La voix de Dieu arrête tout et fait silence. Que se serait-il passé si les auditeurs de Jésus avaient été pleinement conscients que son enseignement, c'était l'enseignement de Dieu, apporté par le Fils de Dieu lui-même, Dieu fait homme, Dieu avec nous, comme nous l'a présenté Matthieu. Et la question se pose lorsque Jésus raconte cette parabole à ses auditeurs. Et même dans la suite du texte, lorsqu'il parle en privé à ses disciples, est-ce qu'ils sont vraiment et pleinement à son écoute? Est-ce qu'ils ont compris que les paroles qu'ils entendent sont, verset 11, les secrets du royaume des cieux? Parce que si on l'a vraiment saisi, alors on a intérêt à écouter. Et la question se pose pour nous. Est-ce que l'enseignement de Jésus va se mêler dans notre esprit à plein d'autres choses que nous entendons? Question particulièrement pertinente à notre époque, alors que nous sommes exposés à un nombre inimaginable de messages en tout genre, chaque jour. information à la télé, information sur Internet, messages publicitaires, réseaux sociaux, à n'en plus finir. Et c'est là que la question de notre cœur va se poser. Je parle ici du cœur selon la pensée biblique. Dans la pensée biblique, le cœur n'est pas seulement associé à nos émotions, à notre ressenti, il l'est aussi, mais pas seulement, à quelque chose de plus large, notre entendement, notre être intérieur. Le cœur dans la Bible, c'est qui je suis profondément, qui je suis au fond de moi. Et Jésus, en enseignant la foule auprès du lac, il s'adresse à tout le monde. La parabole, il la raconte à une grande foule. Il proclame le royaume de Dieu à tout le monde. Mais tous n'étaient pas prêts à recevoir profondément cette parole. L'entendre, ok, l'écouter un peu, y accorder une certaine attention, pourquoi pas? Mais l'accueillir pleinement et l'intégrer, c'est autre chose. C'est une question de cœur. Est-ce que qui je suis au fond de moi veut entendre les paroles de Jésus? Sachant que ce n'est pas toujours les paroles les plus confortables qui soient à entendre. Est-ce que qui je suis au fond de moi veut entendre les paroles de Jésus? Or, dans la parabole, on voit que l'état du cœur, l'image pour représenter ça, c'est la qualité de la terre. Alors, à la lumière du texte, quelles sont les choses qui peuvent nous rendre inattentifs à la parole du royaume? Qu'est-ce que Jésus nous dit à ce propos? La première chose qu'il évoque au verset 19, c'est l'incompréhension. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Alors, est-ce que c'est une incompréhension intellectuelle? Est-ce que c'est une incompréhension voulue? Il y a donc, en tout cas, des cœurs qui, pour l'instant, sont imperméables à la parole. Le message n'est pas écouté. A fortiori, il n'est pas compris. Et il n'est pas intégré. Et plus, justement, qu'un problème d'incompréhension intellectuelle, il y a surtout le refus de croire aux paroles de Jésus. Le refus de croire. Dans notre contexte, ça se traduit souvent par un athéisme ou un agnosticisme assumé, ou la croyance en une autre religion. Mais cette incroyance du cœur, elle peut prendre une forme extérieurement chrétienne. Il y a des gens qui fréquentent des églises chrétiennes, y compris des églises évangéliques, et qui sont imperméables au message de Jésus, à l'espérance du royaume de Dieu, à la bonne nouvelle de la grâce que Dieu accorde aux pécheurs. Il y a des gens qui adoptent la forme extérieure de la piété, mais en qui le message n'a absolument pas pénétré. Tant que la terre n'est pas bonne, la semence n'y poussera pas. Et donc la première chose qui peut rendre inattentif à la parole, c'est un endurcissement du cœur, un refus de cette parole. La deuxième chose que Jésus évoque, ce sont les difficultés ou les persécutions, verset 21. Verset 20. Il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole? Le voilà qui abandonne tout. Ici, la première réaction à la parole de Jésus, elle est positive. Alors peut-être que pour certains, dans notre contexte, c'est l'enseignement qu'on a reçu dans son enfance, peut-être, si on vient d'une famille chrétienne. Et ça reste un point de repère quand même. Dans les moments de crise dans la vie, on repense un peu à ce qu'on a entendu, etc. Pour d'autres, il y a eu un jour la découverte de l'enseignement de Jésus et il y a eu une réaction enthousiaste. Et pour ceux qui animent des groupes GBU, vous avez sûrement parfois vu ces gens qui arrivent et « Waouh, ils sont enthousiastes !» Mais où après, ça se confirme pas forcément. Je pense à mon grand-père qui, ayant entendu l'évangile clairement exposé par mes parents, a eu une première réaction de joie, au point d'écrire dans sa Bible que mes parents lui avaient offert « Oh, happy day !» C'était mon grand-père français, mais il aimait bien le gospel et tout, il a écrit ça. Mais force est de constater qu'ensuite, lorsque ma grand-mère a très mal réagi à son apparente conversion, lorsque aussi il est retourné dans son train-train quotidien, eh ben, semble-t-il, malheureusement, il est un peu passé à autre chose. Et à la fin de sa vie, il se disait agnostique. Peut-être que certains parmi nous sont concernés aujourd'hui par ce cas de figure. Il y a eu une première réaction enthousiaste, ou il y a eu un repère du passé qui est là, mais finalement, c'est plus si clair ce qu'il y a aujourd'hui. Alors, la persécution, je pense que au sens fort du terme, je pense que la grande majorité d'entre nous en sont épargnés. Par contre, les difficultés, les difficultés liées à l'engagement chrétien sont bien présentes. Quand le fait de suivre Jésus nous amène à devoir faire des choix difficiles, des choix à contre-courant, par exemple dans le domaine sentimental et sexuel, ou dans le domaine professionnel, ou dans les relations avec la famille et les amis, ben on va lâcher du lest, on met les choses entre parenthèses, et bientôt on constate qu'il reste à peu près rien. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps de se ressaisir, il est encore temps d'écouter, de vraiment écouter ce que Jésus nous dit. La troisième chose que Jésus évoque sont, verset 22, les soucis de ce monde et l'attrait trompeur des richesses. Là aussi, c'est un cas de figure très fréquent. Alors, peut-être qu'en entendant ça, on se dit « Non, mais c'est bon, moi je me vois pas comme Zuckerberg, j'ai pas ce genre d'ambition, moi, je veux juste ma petite vie tranquille. » Mais justement, il peut y avoir cette réaction-là à la parole de Jésus. La parole de Jésus, c'est super. C'est important, hein, j'en suis conscient, c'est important. Je suis prêt à l'écouter ici ou là quand je suis en mode spi, à l'église, quand j'y vais, ou peut-être même au GBU. Parce que le GBU, c'est sympa, on entend des choses intéressantes, ça stimule la réflexion, il y a des jolies filles et tout. J'ai été GBUcien. Hein. Mais bon, dans les faits, si je suis honnête, mon plan de vie, c'est quand même mon plan de vie. C'est pas non plus Jésus qui me le fixe. Pas exagéré. Il y a mes études, il y a les examens et les concours, il y a les stages, il y a les 6 mois à l'étranger. Il y a le boulot qu'il faudra trouver. Et dans 10 ans, mon but, c'est d'avoir le conjoint, 1 ou 2 enfants, une voiture hybride, de quoi payer les vacances au ski. Donc je vais m'occuper de tout ça d'abord. Je vais régler toutes ces choses-là. Et puis, il me restera largement le temps ensuite de repenser, de prendre au sérieux l'appel de Jésus. Mais ce qu'on va découvrir avec le message de Jésus, cette parole du royaume dont il parle ici, c'est que c'est un message qui ne tolère pas de rival. Soit ça donne du sens à tout le reste, soit ce message donne du sens à tout le reste, soit il n'est pas vraiment compris et écouté. Il ne peut pas s'intégrer tranquillement comme une composante parmi d'autres de notre vie ou de notre vision du monde. Et donc la question qui nous est posée par cette parabole, et celle-ci, notre cœur est-il vraiment ouvert ou seulement à moitié? On veut contrôler encore un petit peu. On est prêt à l'entendre, ça, on est prêt à l'assimiler, mais il ne faudrait pas que ça aille trop loin non plus. Notre cœur est-il vraiment ouvert? Et cette question, elle est posée à tous. Elle est posée aux non-croyants, bien sûr, ou aux sympathisants qui n'ont pas clairement pris position. Et si c'est votre cas aujourd'hui, alors vous êtes venu à la rencontre nationale des GBU, c'est super. Mais peut-être que de façon assumée ou pas, selon les cas, vous n'êtes pas vraiment ou pas encore chrétien. Et cette question, si c'est votre cas, vous est posée. Et si vous acceptiez d'écouter vraiment la parole de Jésus? Et si vous étiez prêt, ne serait-ce qu'à tenter l'expérience, de vraiment prendre au sérieux l'enseignement de Jésus, de chercher à le vivre et l'appliquer, et de recevoir le message de pardon et de réconciliation avec Dieu qui en est le cœur? Et je crois que Jésus-Christ, par cette parabole du semeur, nous dit « Chiche, celui qui a des oreilles, qu'il entende. » Et si vous êtes, comme je disais il y a un instant, un sympathisant, vous devez entendre dans ce texte le risque de réagir avec enthousiasme à la parole, mais sans que celle-ci ne prenne racine en vous. À celui qui croyait avoir, en gros, même ça, ça lui sera enlevé, nous dit Jésus. Et c'est un risque grave, parce que le constat est là dans la parabole, cette terre-là, elle ne porte au final pas plus de fruits que celle qui n'a jamais accueilli la semence. Et comme on le verra dans un instant, la parole de Jésus ne peut pas être réellement reçue sans nous changer. Et donc si Jésus ne change rien concrètement dans votre vie, si vous êtes honnête, en réalité ne change rien à vos choix de vie, c'est sans doute que sa parole n'est pas en vous. Mais il n'est pas trop tard, je l'ai dit. Il n'est pas trop tard pour revenir ou venir à lui. Maintenant, la question « Votre cœur est-il ouvert ?» elle se pose aussi pour les disciples. Pour nous qui avons confessé publiquement la foi chrétienne, qui sommes disciples de Jésus, nous ne sommes pas épargnés par les difficultés. Aux dernières nouvelles, pas épargnés par les difficultés. On n'est pas épargné non plus par l'attrait des plaisirs et des richesses de ce monde. Nous sommes tout autant exposés que les autres à une quantité invraisemblable de messages concurrents. Messages personnels, messages commerciaux, messages culturels, idéologiques. Des messages qui ne sont pas forcément tous mauvais d'ailleurs. Il y en a parfois qui sont bons. Mais est-ce que nous laissons la parole de Jésus, la parole du royaume, transformer la manière dont nous recevons et comprenons tout le reste? C'est ça qui va être la clé. C'est pas de refuser d'écouter tout ce que le monde a à dire, mais plutôt de s'assurer qu'on l'écoute par le filtre de la parole. Et si nous sommes disciples de Jésus, nous vivons de cette parole au jour le jour. Elle doit, je suis le premier à reconnaître que souvent c'est trop peu le cas, mais elle doit fixer nos objectifs de vie, elle doit fixer notre vision, elle doit fixer nos valeurs. Et elle change en permanence notre manière de voir Dieu, notre manière de voir notre prochain et de nous voir nous-mêmes. On doit être constamment à l'écoute de Dieu pour voir le monde comme il veut que nous le voyons et voir le monde un peu plus comme lui le voit. Et c'est pour ça que la parole nous change et ne peut que nous changer si nous sommes vraiment à son écoute. Et ça nous amène à notre troisième et dernière grande exhortation que j'aimerais relever dans ce texte. Laissez-vous changer. Laissez-vous changer. Les sanglots longs des violons d'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Je sais pas si vous connaissez ça. Alors c'est pas de moi, c'est pas de Rimbaud ni de Verlaine. C'est un message codé envoyé au réseau de résistance en Normandie pour les prévenir de l'imminence du débarquement. Alors, fallait comprendre. Hein. Première écoute, c'est pas évident, ça saute pas à l'oreille. À l'oreille du commun des mortels qui avait pas le code pour comprendre, ça lui disait rien du tout. Mais il y avait là des mots-clés, comme des mots de passe, qui avaient du sens pour, entre guillemets, les initiés. Le principe d'un code, quel qu'il soit, c'est qu'il faut savoir ce qu'il y a derrière les mots, derrière les chiffres. Alors, est-ce que c'est ça que Jésus est en train de faire ici? Une sorte de message codé. Et on peut se poser la question, en lisant au verset 13, l'explication que Jésus donne pour expliquer pourquoi il utilise des paraboles. « Voilà pourquoi je me sers de paraboles, dit-il, pour leur parler. C'est que, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas, et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. » Et dans le texte parallèle de l'évangile de Marc, les choses sont dites de façon encore plus saisissante, étonnante. C'est afin qu'ils ne saisissent pas, de peur qu'ils reviennent à Dieu. Étonnant quand même. Marc, non, je l'ai pas mis. Marc 4, 12. Alors, est-ce que Jésus serait en train de dire délibérément des choses que ses auditeurs ne pourront pas comprendre? Il me semble que la clé pour comprendre ce texte est de voir que Jésus n'invente pas là ce qu'il dit là et ce texte qu'il cite, mais cite un texte du prophète Ésaïe. On va pas regarder ce texte vraiment maintenant, Ésaïe 6, versets 9 et 10. Je vais juste le paraphraser un peu. Mais dans le contexte d'Ésaïe, Dieu adresse au prophète ses paroles avec une sorte d'ironie. Il envoie Ésaïe vers Israël et lui dit « Va prêcher à Israël », mais il le prévient en disant « Je connais leur cœur, ils n'écouteront pas. Tu auras beau leur parler, leur cœur est fermé à moi. Je connais leur cœur, ils n'écouteront pas. » Alors en fait, dans le livre d'Ésaïe, on voit que certains quand même ont écouté. Mais globalement, les cœurs étaient fermés. Et ce n'est pas pour rien que Jésus reprend ses paroles. Matthieu 13 montre bien que ceux qui veulent comprendre, comprennent. Jésus ne nous dit pas « Ah non, désolé, t'as pas le code ». Et d'ailleurs, à une ou deux exceptions près peut-être, les paraboles de Jésus sont relativement simples. Relativement simples. Un enfant peut comprendre sans grande difficulté le sens essentiel de la parabole du semeur. Comme on l'a vu, ce qui est déterminant, c'est l'attitude du cœur. Mais je crois qu'il faut ajouter un élément supplémentaire. C'est que si le cœur, au sens biblique toujours, est si déterminant, c'est parce que le message, je reviens à ça, le message de Jésus, s'il est vraiment compris, va tout changer dans la vie. Et donc, nos cœurs doivent être prêts à changer. Et là, on doit se rappeler la proclamation urgente de Jésus au début de son ministère. Changez, car le royaume des cieux est proche. Changez, selon la traduction traditionnelle, repentez-vous. Changez d'orientation de la vie. Faites demi-tour. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il faut faire demi-tour ? Parce que le royaume des cieux est proche. Et là, on commence à entrer dans le vif du sujet concernant le royaume, qui sera plus développé au cours des deux prochaines interventions, le contenu de ce royaume. Si on regarde le texte, on voit que Jésus, à propos de la parabole du semeur, et même à propos des paraboles en général, nous dit, verset 11, nous parle des secrets du royaume. Ou encore, verset 19, du message qui concerne le royaume. Donc l'enseignement de Jésus, c'est pas une philosophie de vie, c'est pas un ensemble de préceptes. Jésus apporte un enseignement qui est porteur d'une nouvelle réalité, qu'il appelle le royaume de Dieu, ou royaume des cieux. C'est la même chose. Et cet enseignement, je l'ai déjà dit, ne peut pas laisser inchangé celui qui l'écoute. C'est pas possible. Alors pourquoi les paraboles ? Eh bien, la lumière du texte, notamment de ces versets 11 et 17, il me semble que les paraboles sont un test du cœur. Un test du cœur. Jésus raconte ces histoires comme des invitations. Dans un sens, il y a bel et bien un aspect codé. Mais c'est pas un code détenu arbitrairement par quelques initiés. Vous savez, comme les codes Wi-Fi, hein, il faut aller chercher un tel. Ah oui, c'est un tel qui va pouvoir te donner le code du Wi-Fi. Vous passez une heure à chercher la personne qui va pouvoir vous donner le truc interminable. C'est pas ça. C'est un code qui s'adresse au cœur et qui teste les motivations du cœur. Et si on comprend pas immédiatement où Jésus veut en venir avec la parabole, c'est pas très grave. Même les disciples de Jésus, souvent, ils n'ont pas compris au premier abord ce que Jésus leur a dit. C'est surtout Marc qui montre bien ça. On le voit aussi chez Matthieu. Souvent, ils n'ont pas tout de suite compris. La parabole de l'intendant infidèle, qui n'est pas dans ce chapitre, je suis pas sûr de l'avoir comprise, même aujourd'hui. Si quelqu'un l'a comprise, venez me voir tout à l'heure. Mais globalement, les paraboles sont pas si compliquées à comprendre. Et la question décisive, surtout, est de savoir si on est prêt à écouter, si on est prêt à demander. Prêt à venir auprès de Jésus, comme au verset 10, ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent. Ceux qui ne veulent pas écouter, ils écouteront pas. Ceux qui sont prêts à écouter prendront au sérieux ces histoires, et même comme on l'a vu au début, ils seront prêts à entrer eux-mêmes dans l'histoire. Or, l'histoire que Jésus raconte, c'est celle de Dieu et de ses projets pour le monde. Il n'y a pas plus important. Il n'y a pas plus essentiel. Et comme le suggère la citation d'Ésaïe, il ne s'agit pas simplement de comprendre les concepts pour être éclairé. Il s'agit surtout de changer. Parce que nous avons besoin de changer. Parce que la justice de Dieu qui est en train d'intervenir là dans la personne de Jésus, elle exige un demi-tour complet de la vie. Et on ne peut pas faire sans ce demi-tour. Parce que quand le Seigneur de l'univers vient se réconcilier avec les hommes, il est inimaginable d'être indifférent à cela. C'est inimaginable si Dieu vient nous parler d'écouter d'une oreille et puis de vaquer tranquillement à ses occupations de l'autre. C'est pas possible si Dieu est Dieu. Et donc l'enjeu est existentiel. L'être humain a besoin de revenir à Dieu. L'être humain a besoin de guérison. Verset 15. Je les aurais guéris si seulement ils avaient écouté. Alors quand Jésus parle, quand le semeur sème, c'est vital d'écouter. Et si on écoute vraiment, on doit savoir que tout va changer. On doit savoir que Jésus va nous appeler non seulement à l'écouter, mais aussi à le suivre, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si on écoute vraiment Jésus, il faut savoir qu'après, il faudra le suivre. Autant être prévenu. Et il va falloir le suivre, pas sur n'importe quel chemin, mais sur un chemin qui va à contre-courant du monde présent, et que Jésus a tracé jusqu'à la croix, puis au tombeau vide. Ces deux grands tournants de l'histoire qui vont ensemble, les deux piliers de l'évangile qui ont changé le cours du monde et qui doivent changer le cours de notre vie à chacun. Alors entrons dans l'histoire, ouvrons nos cœurs, laissons-nous changer. Amen.